C'est l'heure du journal avec vous, Laura Dulieu. Bonjour Laura.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce midi, l'appel à la mobilisation contre la loi dite sécurité globale, dont l'article 24 a été adopté hier à l'Assemblée. Mobilisation également contre les violences sexistes et sexuelles en ligne cette fois, à l'appel du collectif Nous Toutes. À l'étranger, le G20 virtuel lui aussi s'est ouvert, organisé par l'Arabie Saoudite. Enfin, au moins 8 morts dans une explosion à Kaboul, en Afghanistan. Et puis nous irons au Burkina Faso, où la population vote demain pour élire son président et ses députés. Enfin, la bulle éco. Aujourd'hui, Marie Viennot revient sur la crise européenne autour de l'état de droit. C'est l'article le plus controversé. L'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale a été adopté hier par les députés à 146 voix contre 24. Un article qui prévoit de punir d'un an de prison et 45 000 euros d'amende la diffusion de l'image du policier ou tout autre élément d'identification des forces de l'ordre en intervention quand elles portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Une disposition qui fait bondir les sociétés de journalistes et les défenseurs des libertés publiques. L'article a été amendé par le gouvernement, qui ajoute que cette mesure ne peut porter préjudice au droit d'informer et que l'intention malveillante contre les forces de l'ordre doit être manifeste. Pas de quoi apaiser les détracteurs du texte qui appellent à de multiples rassemblements partout en France. À Paris, rendez-vous est donné à 14h30 au Trocadéro. Tandis que les opposants à cette loi seront dans la rue, ce devait être aujourd'hui la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Alors comment réitérer une forte mobilisation en période de confinement ? L'année dernière, près de 50 000 personnes, 100 000 selon les organisateurs, avaient défilé dans les rues de Paris pour la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'était du jamais vu sur ce sujet. Cette année, pas de marche, mais le collectif Nous Toutes appelle à se mobiliser virtuellement aujourd'hui. Pendant toute la journée, des formations, des conférences en direct et d'autres contenus sont proposés. Écoutez Caroline Dehas, l'une des fondatrices de Nous Toutes.
Que ce soit du côté de la justice, de la police, de la gendarmerie, du ministère de la Santé, de l'Éducation nationale ou au niveau de la présidence de la République, ce sujet n'est aujourd'hui pas considéré comme une priorité. Donc le premier objectif de cette journée de mobilisation, c'est de rappeler au gouvernement qu'on est là. C'est pas parce qu'on peut pas descendre dans la rue qu'on n'est pas mobilisé, et de lui demander encore et encore de changer de politique publique sur la question des violences. Et puis le deuxième objectif de cette journée de mobilisation, c'est sensibiliser autour de soi. Notre conviction à nous toutes, c'est que plus il y aura de personnes en France comme dans le monde qui seront formées, informées, sensibilisées sur la question des violences, moins il y aura de violences dans la société. Et donc on va donner des outils, des visuels, des quiz, des vidéos, toute la journée aux internautes pour aller convaincre dans leur entourage.
Et je rappelle que chaque année en France, 1 200 000 femmes sont victimes d'injures sexistes selon Nous Toutes. 200 000 femmes vivent avec un conjoint violent. En fin 2019, 152 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Alexia Daval, elle, a été tuée en octobre 2017. Le procès de son mari, Jonathan Daval, se tient depuis le début de la semaine. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise ce matin contre lui devant les assises de la Haute-Saône à Vesoul. Jonathan Daval, qui reconnaît être l'auteur du meurtre de sa femme, avait maquillé le crime en disparition avant de jouer les veufs et pleurer pendant 3 mois. Le verdict est attendu en fin de journée. Il devait se tenir sur place. C'est finalement un sommet du G20 virtuel ce week-end à Riyad en Arabie Saoudite. À cause de la pandémie de Covid-19, pas de grande opération de communication donc, comme l'espérait l'Arabie Saoudite, mais des échanges par écran interposés. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour.
Aurélien, au programme de cette première journée de discussion, le financement des vaccins contre le Covid-19.
Oui Laura, le lancement officiel du G20 sera donné tout à l'heure à 14h45 heure saoudienne avec un survol de la capitale par une patrouille acrobatique. C'est le seul événement réel puisque tout le reste est virtuel, vous le disiez, de la diplomatie numérique comme disent déjà certains. Alors à suivre via internet tout à l'heure l'ouverture du sommet par les autorités saoudiennes avec une prise de parole du roi Salman, les interventions ensuite des responsables politiques des pays membres, notamment Donald Trump dont ce sera a priori la dernière participation à un événement international comme président américain. Et puis sur le fond, vous le disiez, la pandémie s'est imposée comme le thème central de ce G20, avec d'abord la question de l'accès aux vaccins, aux tests et aux traitements. L'OMS, l'ONU, l'Union européenne et l'Afrique du Sud viennent d'appeler le G20 à financer en urgence le mécanisme de l'OMS destiné à offrir un accès universel aux vaccins. Il manque 4,5 milliards de dollars pour l'industrialisation, l'acheminement et la fourniture aux pays en développement. L'Union européenne devrait aussi proposer un nouveau traité international pour renforcer la coopération lors de future pandémie. Et puis les dirigeants du G20, qui ont dépensé 11 000 milliards de dollars pour éviter l'effondrement de l'économie mondiale, vont se pencher aussi sur sa relance, et ça passe par le soutien aux pays les plus vulnérables. Le moratoire sur le service de la dette des pays en développement, qui a été mis en place en avril, doit être reconduit pour 6 mois. Ce n'est pas assez pour l'ONU, qui réclame jusqu'à la fin 2021. L'Europe aussi voudrait aller plus loin sur ce dossier de l'allègement de la dette des pays pauvres.
Aurélien Colli, merci. Et après avoir promis un vaccin efficace à 95%, le groupe américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech demandent à l'Agence américaine des médicaments l'autorisation de leur vaccin contre le Covid-19. Ce sont les premiers fabricants à faire cette démarche aux États-Unis ou en Europe. Kaboul secoué ce matin par une série d'explosions. 23 roquettes ont été tirées dans la capitale afghane. Le bilan fait état de 8 morts et d'au moins 31 blessés. Aucune revendication pour l'instant. Ces explosions surviennent avant les rencontres prévues aujourd'hui à Doha au Qatar entre le secrétaire d'État américain et les négociateurs talibans et du gouvernement afghan. Les précisions de Sonia Ghazali, correspondante de RFI dans la région.
Des jeunes filles en uniforme, la tête couverte d'un voile blanc, courent paniquées dans une ruelle de Kaboul. La vidéo a été postée sur Twitter par un journaliste afghan. Une roquette s'est abattue sur une école de filles, créant l'effroi parmi les élèves, écrit-il. Depuis ce matin, des témoignages et des images terrifiantes abondent sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui expriment l'effroi ressenti en entendant le bruit des roquettes s'abattre les unes après les autres à différents endroits de la ville. Le centre de Kaboul et notamment les alentours de la zone verte ont été touchés. Des roquettes qui n'ont pas explosées ont été retrouvées dans les locaux de certains bureaux. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur des années 90 quand Kaboul était détruite par des mortiers, écrit un Kaboulien. Difficile en effet de ne pas penser à la guerre civile qui a déchiré l'Afghanistan entre 1992 et 1996. La violence ne fait qu'augmenter en Afghanistan malgré les pourparlers de paix à Doha entre les talibans et le gouvernement afghan. Les discussions qui ont commencé en septembre dernier ne se traduisent pas par une baisse des violences, bien au contraire. Certains craignent que la situation n'empire même avec le retrait accéléré des troupes américaines annoncé en début de semaine par Donald Trump. Près de 2000 soldats doivent quitter prochainement l'Afghanistan. L'accord signé en février entre Washington et les talibans prévoit le retrait complet des troupes en milieu d'année prochaine.
Sonia Ghazali. Veille d'élection au Burkina Faso où la population vote demain pour élire à la fois son président et les 127 députés de l'Assemblée nationale. À noter qu'il sera difficile de voter dans une partie du territoire à cause des problèmes d'insécurité liés au djihadisme. Quoi qu'il en soit, la campagne s'est terminée hier avec le dernier meeting à Ouagadougou du président sortant, Rochmar Christian Caboret. Le reportage sur place de Nathanaël Charbonnier.
Le stade du 4 août de Ouagadougou était rempli, 35 000 personnes présentes pour saluer le bon travail effectué, selon elle, par leur président.
Caboret, c'est vraiment un président idéal. Vraiment, on est fiers de ce monsieur. Fier et uniquement fier de ce monsieur.
Et le président Roch d'aller dans le même sens, en soulignant l'avancée depuis 5 ans de la démocratie dans son pays. Il a également évoqué le sort de l'ancien président en exil Blaise Compaoré, dont le retour est possible à condition qu'il passe par la case justice.
Concernant ceux qui ont fui le Burkina Faso, je dis et je répète, tout le monde peut rentrer au Burkina Faso. Nous sommes une terre de démocratie, mais il faut dire qu'il y a un mais. Le mais là, c'est que si tu as des problèmes à la justice, tu répondras devant la justice du peuple.
Quoi qu'il en soit, la démonstration de force était réussie pour le président Roch, tellement réussie que pour ses partisans, une victoire au premier tour est tout simplement une évidence.
C'est comme le président a dit, Hakuna Matata, il n'y a pas de souci.
Hakuna Matata ?
Hakuna Matata, pas de souci, on a gagné. Le un coup KO est assuré.
Et réponse dimanche, les résultats au Burkina devraient tomber dans la soirée.
Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial à Ouagadougou au Burkina Faso. On retourne en France avec là aussi un événement qui se déroule en ligne à défaut de pouvoir se rassembler. Le salon des grandes écoles s'est ouvert aujourd'hui avec des étudiants mécontents qui comptent bien se faire entendre. En particulier les étudiants en école de commerce qui suivent leurs cours essentiellement à distance. Ils réclament un remboursement partiel, au moins une réduction de leurs frais de scolarité. Des frais qui se chiffrent par exemple pour un étudiant en master entre 15 000 et 20 000 euros l'année. Une pétition lancée mi-novembre par 23 grandes écoles de management a déjà récolté plus de 20 000 signatures, Sarah Ders.
Les étudiants signataires se plaignent des cours à distance qui seraient de moins bonne qualité, plus d'accès aux installations de l'école qu'ils paient pourtant et des loyers qu'ils doivent acquitter sans être sur le campus. Le tout corrélé à une incessante hausse des frais de scolarité. Comme eux, William, en master à Kedge Marseille, s'interroge sur la légitimité du montant à payer.
Il y a un peu cette image de l'étudiant marchand de tapis qui veut à tout prix
diminuer les frais de scolarité, qui veut revenir sur ce qu'il a signé, alors que ce n'est pas le cas du tout. Enfin, il faut vraiment voir l'étudiant d'école de commerce comme un client qui n'est pas satisfait et qui n'a pas le service proposé préalablement. La qualité du service n'est pas celle qui était attendue, d'où le dédommagement qui doit en découler derrière. C'est également à l'école de s'adapter et de proposer des aménagements pour que ça ne soit pas aux étudiants de porter toutes les conséquences de cette crise.
Une vision que ne partage pas le président du Bureau national des étudiants des écoles de management, Étienne Loss, estime que les directions travaillent déjà à plus de transparence et de pédagogie sur la répartition de ces frais d'inscription.
Il faut prendre en considération l'ensemble de l'équilibre financier de nos établissements, qui lui-même repose sur près de 70% de nos frais de scolarité. Aujourd'hui, nous continuons à suivre l'ensemble de nos cours sans perte de contenu, bien qu'ils soient en ligne. Les professeurs sont payés à 100% et nos établissements ont investi des millions d'euros pour que la continuité pédagogique puisse être assurée et ainsi que notre diplôme ne soit pas dévalué. On estime qu'aujourd'hui, personne ne gagne d'argent dans cette crise et surtout pas nos écoles.
Les établissements, eux, répondent dans une lettre ouverte « Ne pas pouvoir dédommager les élèves à moins de mettre en péril leur modèle économique ».
Sarah Ders, La Bulle Éco, tout de suite.
La Bulle Économique, Marie Viennot.
La Bulle Économique qui revient sur la crise européenne autour de l'état de droit, une histoire de justice et de sous avant tout.
L'état de droit pour nous est clé. C'est le premier ministre néerlandais Mark Rutte qui s'exprime ainsi au début des négociations sur le budget et le plan de relance européen cet été à Bruxelles. Deux jours plus tard, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, en fait une affaire personnelle. Je ne vois pas pourquoi le premier ministre néerlandais me déteste autant, moi et la Hongrie.
But he's attacking so harshly.
L'état de droit n'est pas une question personnelle. C'est un sujet majeur de l'Union européenne depuis 3 ans, depuis que la Hongrie et la Pologne font l'objet d'une procédure qui pourrait les conduire à perdre leur droit de vote. Comme il faut l'unanimité pour l'enclencher, les deux pays se serrent les coudes et rien ne change. Jusqu'au sommet de l'été dernier, où l'accord sur le plan de relance et le budget mentionne bien, in fine, comme le voulait le Premier ministre néerlandais et tant d'autres chefs d'État, l'état de droit. Les Polonais et les Hongrois ont pensé qu'ils auraient un veto pour empêcher son application, analyse Eulala Rubio, politiste à l'Institut de l'Or. Mais il y avait, selon elle, une ambiguïté à dessein pour que tout le monde signe. Pendant l'été et après, les négociations sur ce sujet ont continué. La Commission a proposé un compromis, le Parlement l'a amendé, le Conseil européen validé et cette fois à la majorité qualifiée. Début novembre, le règlement permettant de suspendre l'allocation des fonds européens en cas d'atteinte à l'état de droit fut publié, déclenchant la crise actuelle. Le sujet principal, c'est le risque de détournement, de fraude, de corruption et pas la politique migratoire, comme l'affirme le Premier ministre hongrois qui a surtout des raisons financières de s'inquiéter. Car ce règlement vient combler 2 failles énormes. Aujourd'hui, c'est l'OLAF, l'Office européen de lutte contre la fraude, qui est chargé de vérifier que les fonds européens sont bien utilisés. Il peut enquêter, mais il ne peut pas poursuivre. S'il trouve une infraction dans un pays, il transmet le dossier à la justice et c'est à elle d'instruire, poursuivre et sanctionner. Si la justice est aux ordres, ces magistrats nommés par le pouvoir politique, comme en Pologne, les dossiers de l'OLAF enterrés, comme ce fut le cas pour des subventions accordées au gendre de Viktor Orban, on en reste là. Deuxième faille, ce n'est qu'après que les fonds soient versés que l'OLAF peut enquêter. Cette fois, la Commission pourra proposer de ne pas les verser préventivement s'il y a dans un pays des carences structurelles qui ne permettent pas de garantir que l'argent public européen est utilisé à bon escient. Et parmi ces carences, il y a tout en haut de la liste l'indépendance de la justice et pas la politique migratoire. Pour qu'elle puisse mettre un pays à l'index et recommander la suspension des fonds, la Commission devra en effet démontrer qu'il y a un lien entre la règle de droit qu'elle juge non respectée et la bonne utilisation de ces fonds. Quand un État ne prévient pas les conflits d'intérêts ou la corruption, ce qui est le cas de la Hongrie, que la justice n'y est pas structurellement indépendante du pouvoir politique, ce qui est le cas de la Pologne, il est possible de faire ce lien. Le lien entre la bonne gestion financière du budget européen et la fermeture des frontières, la remise en cause du droit à l'avortement ou même les atteintes aux libertés de la presse sera en revanche beaucoup plus difficile, voire impossible, à démontrer. Ce règlement a donc une portée bien plus limitée que ce qu'affirment les dirigeants hongrois, polonais et ceux qui les soutiennent. Il ne les empêchera pas de rester des démocraties illibérales, mais il évitera, s'il reste en l'état, que ces desseins soient financés par les autres Européens. Il est là l'enjeu du conflit actuel et il sera difficile de trouver un compromis gagnant-gagnant.
On termine avec un mot de météo. Le soleil qui s'impose sur les trois quarts du pays cet après-midi. Plus de nuages au nord de la Seine. Il fait entre 10 et 14 degrés en général et jusqu'à 17 degrés au sud-est de la France. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili et Audrey Guélier, la technique.